Radio Fréquence
Blanche. Donc voilà, je m'appelle Bertrand Berchier. Ce soir, je viens vous parler de la question des associations et du comment vivre ensemble. Alors, le comment vivre ensemble, c'est vraiment une question qui est aujourd'hui vraiment plébiscitée. Elle est plébiscitée à toutes les échelles, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, mais aussi, on le voit ce soir, à l'échelle la plus locale. Alors, à l'échelle internationale, tout d'abord, c'est-à-dire celle d'un monde qui est de plus en plus ouvert à tous les échanges, à tous les métissages, un monde où les pays les plus lointains sont devenus des pays voisins, un monde qui ne s'est pas simplement rétréci, c'est un monde aussi qui nous a rejoints avec ses palettes de différences plus ou moins vives, plus ou moins exotiques, qui nous a rejoints à l'intérieur de nos sociétés, à l'intérieur de nos petites communautés et à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui me frappe, c'est que ce comment vivre ensemble est également décliné à l'échelle nationale et surtout donc à l'échelle locale, à l'échelle de nos quartiers, à l'échelle de nos communes. Alors, quand elle est évoquée, elle est parfois évoquée un petit peu comme on évoque une énigme à résoudre. Comment vivre ensemble? Et c'est un peu étonnant ça, parce qu'au fond, le vivre ensemble marque le genre humain depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, notre condition humaine, c'est celle de la coexistence, c'est celle du sens de cette coexistence. Vivre et ensemble sont étroitement associés, sont indissociables. Pour les Romains, peuple politique s'il en était, quand on disait « qu'est-ce que vivre ?», la définition de vivre, c'est « être parmi les hommes ». Alors, au fond, ce qui est étonnant dans le vivre ensemble, c'est le comment. Ce qui est nouveau, c'est le comment. Tout se passe aujourd'hui comme si le vivre ensemble avait perdu de son allant de soi. Tout se passe comme si le vivre ensemble n'était plus une évidence. Tout se passe comme si le vivre ensemble n'était plus un code de bonne conduite, un héritage de normes indiscutables, mais plutôt un monde à explorer. Tout se passe comme si ce vivre ensemble n'était plus un état de fait, mais une source d'interrogation. Une source d'interrogation, et la préoccupation, le désarroi est assez récent, assez contemporain. En effet, jusqu'au 19e siècle, et même la moitié de notre 20e siècle, eh bien, le vivre ensemble ne faisait pas question, c'est-à-dire que quand vous apparteniez à un milieu social, quand vous apparteniez à un genre, quand vous apparteniez à une profession, cela vous imposait des rapports statutaires, des rapports hiérarchiques, des cadres de relations, des cadres d'action. Bref, cela ne faisait pas question. C'était une réponse seulement socialement ancrée, ce n'était pas une interrogation. En fait, chacun connaissait les règles du jeu concernant. Et ces règles du jeu étaient claires. Alors, s'opposer à ces règles du jeu ou les transgresser, c'est une autre affaire. Mais les contours étaient nets. Eh bien, ils ne le sont plus. Ils ne sont plus. Et le comment signe, au fond, l'ouverture d'un vaste chantier. C'est le comment signe... C'est Jean-Claude Guilbeault qui dit ça, j'aime bien. Il dit, c'est un peu le commencement d'un monde. Alors, face à ce vaste chantier, ben, vous ne nous avez pas attendu. On voit qu'il y a des initiatives très, très intéressantes qui se mettent en place. Face à ce vaste chantier, ma petite prétention de ce soir, c'est essayer de vous donner peut-être des clés de lecture pour regarder un peu ce vivre ensemble, pour le lire. Alors c'est un essai, et quand on est un essai, c'est forcément modeste, hein, et il y a même un peu de confusion, c'est-à-dire que l'objet de ma réflexion, le vivre ensemble, est en même temps un objet à promouvoir. Tout se passe comme si cet objet que je voulais étudier s'affranchissait de la prudence académique qui normalement veut que l'on teste le point de vue normatif. Hein, que l'on s'émancipe, eh bien je vais m'émanciper de ce principe et je rejoins un des fondateurs de ma discipline, je suis sociologue, c'est un des fondateurs qui s'appelle Émile Durkheim. Et Durkheim, dans une préface de son travail, disait « De ce que nous proposons d'étudier avant tout le réel, ici ce soir, le vivre ensemble, il ne s'ensuit pas que nous renoncions à l'améliorer. Nous estimerions que toutes nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. » Alors, avançons dans cette réflexion, risquons un essai. Risquons un essai. Cet essai part donc de l'insistance du comment. Comment vivre ensemble. Et dans cette insistance, je trouve qu'il y a à la fois une belle aspiration humaine à vivre ensemble, et en même temps, cette insistance sonne comme un aveu. C'est-à-dire un aveu d'une sociabilité qui a du mal, comme si la sauce avait du mal à prendre. Et dans cette sociabilité, il y a l'idée qu'il va falloir faire du travail, il va falloir engager un travail pour construire le faire société. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un travail pour trouver des modes de régulation. Des modes de régulation pour corriger les crispations entre communes, pour corriger parfois les fractures, les rigidités entre générations. C'est aussi un travail
pour susciter sur un territoire donné, et on a vu là, je crois, quatre territoires différents, pour susciter sur un territoire donné, de la part des différents habitants, des modes de comportement par lesquels les uns et les autres se font acteurs de cette cohésion sociale. Alors, pour penser ce vivre ensemble, je vous propose d'avoir à l'esprit quatre pôles. Le pôle individuel, le pôle collectif, le pôle du conflit, qui a été avec beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup d'humanité abordé ce soir, et puis le pôle de l'autorité. Il nous faudra mettre en tension ces quatre pôles. Alors d'abord, il n'y a pas, premier pôle, le pôle individuel, il n'y a pas de vivre ensemble sans intégrer le chacun dans ce qu'il a d'unique. Ça veut dire quoi, intégrer le chacun? Ça veut dire le reconnaître au plan cognitif, au plan de la tête. C'est le reconnaître au plan de l'action, ses possibilités initiatives, et c'est le reconnaître au plan social. Le reconnaître au plan cognitif, tout d'abord, c'est reconnaître la capacité de chacun, si modeste soit-il, au plan culturel, au plan social, la reconnaître la possibilité de chacun de donner du sens à son quotidien, de mettre des mots sur sa réalité économique, sociale, culturelle. C'est-à-dire reconnaître la capacité de chacun à être auteur, à avoir un dialogue intérieur, à pouvoir dire oui, à pouvoir dire non, à pouvoir, et le mot est revenu dans plusieurs associations, à pouvoir exprimer des envies. Le mot envie ressort souvent dans les échanges. Eh bien, finalement, reconnaître la capacité à produire du sens sur sa réalité. Reconnaissance donc au plan cognitif de chacun. Reconnaissance également au plan de l'action. Reconnaissance au plan d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance de chacun à lâcher la main de l'accompagnateur. La reconnaissance de chacun à oser, à se risquer. La reconnaissance donc de chacun à prendre des initiatives et, ce faisant, à transformer le monde, celui de la commune, celui de son quartier, le monde dans lequel il prend place. Reconnaissance au plan cognitif, reconnaissance au plan d'action et reconnaissance enfin de chacun au plan social. C'est-à-dire la reconnaissance d'un individu qui n'est pas ici recroquevillé sur lui-même. C'est la reconnaissance d'un individu qui peut apporter sa capacité de sens à la création du sens collectif, qui peut apporter sa capacité d'action à la construction d'actions collectives. Et les exemples, les quatre exemples, on voit comment les chacun ont pu collaborer, contribuer à cette potentialité-là citoyenne. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas de faire société, il n'y a pas la possibilité de construire, de fabriquer du commun, si on est avec des orphelins du sens. Être orphelin du sens, c'est ne pas verbaliser, c'est ne pas arriver à mettre des mots sur mon existence, ne pas arriver à mettre des mots notamment sur les situations d'injustice sociale, d'injustice économique dans lesquelles je suis. C'est-à-dire une difficulté à symboliser cette existence, une difficulté à symboliser ces situations, donc une difficulté à avoir prise sur cette existence, à avoir prise sur ces situations. Et c'était intéressant de voir la dernière intervention, celle autour du café, qui dit « mais finalement, si on ratait l'accueil, on ratait tout ». C'est-à-dire la capacité finalement de pouvoir commencer à tout simplement à se raconter modestement, pouvoir se dire autour d'un café, pouvoir raconter son quotidien, c'est apprendre à structurer son quotidien, c'est apprendre à mettre à distance ce qui m'arrive, c'est apprendre à mettre à distance ce qui nous arrive. Et c'est là un point essentiel. Ça veut dire qu'au plan de l'action des associations, au plan de l'action sociale, ça nous rend particulièrement attentifs à cette éclosion individuelle du sens chez chacun. Ça veut dire quoi, particulièrement attentif? Ça veut dire prendre au sérieux, prendre en considération. Prendre au sérieux, prendre en considération ce que cela signifie participer à cette fête de la moustache pour ce barbu là qui a déjà une moustache. Ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire prendre au sérieux ce que venir à ces quatre jeudis veut dire pour cette femme qui est isolée, qui vit seule avec ses deux enfants, qui élève toute seule ses deux enfants. Ça veut dire prendre au sérieux ce que ça peut signifier pour cet adulte, ce nouvel arrivant sur la commune, de participer à ce réveillon partage. Ça veut dire prendre au sérieux ce que peut vouloir signifier pour ce chef d'entreprise de débarquer au Ripper Café. Eh bien, voyez-vous, en soi, pour ces associations, l'importance, le crédit accordé à la parole de chacun entre en résistance aujourd'hui. Entre en résistance avec les représentations fatalistes d'un monde qui serait décrit comme livré à l'emballement, d'un monde qui serait décrit comme livré à la toute-puissance de mécanismes économiques qui laissent les individus dans l'impossibilité de prendre part en parole et en acte à la construction du monde. Ces questionnements, ces prises au sérieux de la parole de chacun entrent en résistance avec toutes les idéologies cyniques pour qui il n'est d'autre valeur que finalement de valeur monétaire, de valeur financière, pour qui il n'est d'autre sens que le sens du CAC 40. Il y a là une belle résistance des associations. Nous avons introduit le pôle individuel, il nous faut le mettre en tension avec le pôle collectif. Deuxième pôle, le pôle collectif. Le pôle collectif aujourd'hui est confronté à une crise de la symbolisation. Ça veut dire est confronté à une crise du repliement. Le symbole, l'étymologie de symbole, c'est sumbalein, cela renvoie à l'idée de jeter ensemble. Sumbalein, selon le contexte, ça peut vouloir dire mettre en commun, se rassembler, échanger, se réunir. Et dans une société marquée par le délitement social, dans une société où, dit Tocqueville, les individus ne se sentent plus liés par des intérêts communs, où chacun se croit réduit à ne s'occuper que de lui-même, eh bien, comment construire avec une association, comment construire de l'appartenance? Comment, dans une société du tout à l'écho, construire de l'appartenance? Je peux, ici, ce soir, avancer, esquisser deux pistes, explorer deux pistes. Deux pistes pour construire de l'appartenance dans cette société du tout à l'égo. Première piste, et elles sont à l'œuvre dans vos quatre associations, en tous les cas dans les quatre exemples qui m'ont été rapportés. Première piste, donc, je crois qu'il faut pouvoir affirmer, et c'est me semble-t-il ce qui est fait ici, pouvoir affirmer avec une tendre fermeté, avec une exigence bienveillante, que la subjectivité de chacun est importante, certes, et qu'elle ne peut tenir lieu de normes et l'entente d'exception. Il nous faut apprendre, c'est Martin Luther King qui disait cela déjà en son temps, il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, disait-il, on va mourir tous ensemble comme des idiots. Eh bien, Paul Ricoeur, de façon plus savante, le dit à sa façon, le philosophe, quand il écrit, « Au fond, il nous faut, là où nous sommes, sur nos quartiers, dans nos communes, dans nos associations, il nous faut penser l'affrontement des volontés, l'affrontement des volontés qui sont liées et libres en un sens nouveau, dit-il. C'est-à-dire, non pas celui de faire ce que je veux, de faire passer absolument mon idée, c'était l'exemple à un moment, absolument mon projet. Non, c'est libre finalement de prendre de l'indépendance par rapport à mes propres désirs et libre de reconnaître une norme. Il y a là une première piste. La seconde piste qui est pour moi essentielle, c'est d'adopter dans nos associations un principe de multiplicité. Ça veut dire quoi, un principe de multiplicité? Eh bien, c'est un principe qui va nous permettre de déjouer, me semble-t-il, et là c'est flagrant dans les quatre associations, de déjouer deux pièges. Premièrement, le piège de la catégorie. Le piège de la catégorie, c'est tout ce qui tend, dans les associations, à vouloir absolument, finalement, définir les gens parce qu'il les relie au sens de ce qui uniformise, et donc ce qui enferme. Alors ce qui peut être enfermé, ça peut être une classe d'âge, ça peut être une catégorie professionnelle. Et là, on voit bien comment, à tous les niveaux, dans les quatre exemples, on va mettre en place un principe de multiplicité à travers une première composante, qui est la mixité sociale. Une mixité sociale, quand j'entends dans Ripper Café, finalement, ceux qui viennent là, c'est aussi bien des ouvriers, des employés, des chefs d'entreprise. Quand j'entends dans le réveillon partage, mais autour de la table, il n'y avait pas la catégorie des gens qui sont en difficulté, il y avait au fond des gens qui étaient là, qui avaient envie de passer un moment autre, de penser autrement ce réveillon. Et on voit bien que cette mixité sociale, je la retrouve également à l'œuvre dans les télé-quatre jeudis, où il y a une mixité qui est une mixité intergénérationnelle. On casse la catégorie des appartenances à des classes d'âge. Ça, c'est un point essentiel au principe de multiplicité, que cette mixité, mais ce n'est pas suffisant. Le second piège à déjouer, après celui de la catégorisation, voyez-vous, le second piège pour nous à déjouer, c'est le piège de la stigmatisation. Le piège de la stigmatisation, c'est la tendance à définir des catégories, à défendre autrui individu, autrui collectif, à travers ses manques, à travers ses carences, à travers ce qu'il ne sait pas, à travers ce qu'il n'est pas, à travers ce qu'il n'a pas, pas d'emploi, pas de logement, pas de papier, pas d'expérience, pas de réseau. Eh bien, chausser les lunettes de la multiplicité, c'est non seulement favoriser la mixité, mais c'est encore c'est encore adopter un principe de présomption de compétence. Présomption de compétence, c'est-à-dire apprendre à regarder l'autre, et c'est ce que vous faites, apprendre à regarder l'autre, apprendre à écouter l'autre, non pas à travers ce qui n'a pas ses défauts, ses carences, non pas le définir socialement par le manque et la négative, mais au contraire par ses talents, mais au contraire par ses qualités, mais au contraire être un peu comme des découvreurs de dons. Et là, dans les quatre exemples, on voit combien est important pour vous cette recherche comme point d'appui sur les talents, sur les dons. Il y a là un principe essentiel dans ce principe de multiplicité qui va aider à prendre sa parole. À prendre sa parole dans l'espace public, à prendre sa parole dans l'association. Et c'est le moment où la personne dit, vous savez, quand on s'est présenté autour de la table, nous on a dit, voilà, on est des secours catholiques, et eux on dit, ils ne sont pas des secours catholiques, mais ce n'est, oui, mais nous on participe à l'équipe du réveillon partage. Il y a là une prise de parole dans l'espace public qui n'est pas possible quand vous n'avez pas fait l'expérience de ces regards bienveillants, de ces regards venant confirmer vos talents, venant confirmer, reconnaître vos qualités. Et là, tous les appels à la citoyenneté, tous les appels au devoir civique sont vains quand la personne ne se sent plus un visage, quand elle se sent uniquement dévisagée, c'est-à-dire non seulement catégorisée, mais stigmatisée. Alors, dans une société où les rationalités sont de plus en plus compliquées, où prévaut trop souvent ce qui se compte sur ce qui compte, il devient intéressant, là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos communes, d'être attentifs à nos utopies. C'est-à-dire d'être attentif à nos rêves. À nos rêves. Et on voit bien que la plupart, là, dans les exemples, on s'est autorisé à dire un peu nos rêves. Un peu rêve fou. Bon, le coup des moustaches, c'est quelque chose d'un peu fou dans cette affaire-là. Hein, et c'est bon. Et c'est bon de s'autoriser à comprendre que dans l'utopie, il y a de l'énergie. Il y a vraiment de l'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par-delà les logiques du quantifiable, par-dessus le marché, c'est le cas de le dire, il s'agit de s'ouvrir à cette dimension symbolique du socius, cette dimension symbolique du vivre ensemble, c'est-à-dire à l'affirmation de convictions fédératrices, un territoire, une commune, une association qui ne transmet plus à ses adhérents, qui ne transmet plus à ses habitants et qui ne cultive plus la vertu de l'espérance. C'est un territoire, c'est une commune, c'est une association qui désespère d'elle-même. Qui non seulement désespère d'elle-même, mais désespère des habitants qu'elle accueille, désespère de ceux qui viennent sur son territoire. Et là, je ne peux pas ne pas faire le détour. Vous savez que dans notre société, chez les plus jeunes, alors je ne sais pas s'il faut le mettre à 35 ans, la jeunesse. Je le risque. En tous les cas, je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Eh bien, dans notre société, la seconde cause de mortalité des 15-24 ans, c'est le suicide. Alors au-delà du drame privé, familial, c'est un vrai drame social. Une société qui perd ses jeunes ne peut pas ne pas s'interroger. Et quand on regarde parmi les sources, parmi les mots de cette société, un des mots, c'est les regards chargés d'inquiétude. C'est les paroles désolantes portées par ceux qui nous précèdent, portées par les adultes sur les générations qui suivent, sur leur destin professionnel, sur leur destin social. Et parfois ça se joue très jeune. Vous avez même des pressions de parents dès le plus jeune âge. Et tout se passe comme si ces regards chargés d'inquiétude sur ces paroles angoissées venaient hypothéquer d'emblée le destin de ces nouvelles générations. Et il y a là vraiment des mécanismes décourageants, d'où l'importance de s'autoriser à définir, non pas individuellement, mais à définir collectivement nos rêves. Quels rêves avons-nous ? Et là, il faut marquer une pause. Il faut marquer une pause. C'est-à-dire, pouvons-nous, dans notre association, pouvons-nous, dans notre collectif, pouvons-nous définir collectivement le rêve que nous avons ? Le rêve que nous avons, par exemple, par rapport à ce réveillon. Et on voit qu'il faut prendre du temps pour donner du sens à ce rêve. Et là, sans doute, qu'un des aspects que j'ai pu lire dans un des papiers autour de ce réveillon partage résidait autour de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'on n'avait peut-être pas été suffisamment précis sur quel rêve avons-nous. Pour certains, le rêve, c'était de pouvoir donner à autrui, d'être au service d'autrui. Et pour d'autres, le rêve, l'ambition que nous avions pour ce réveillon partage, c'était plutôt au fond que tous, ensemble, nous produisions finalement de la fête. Alors, cette question de l'utopie, c'est cette question de quel rêve avons-nous ? Quel rêve avons-nous ? Elle doit être immédiatement encadrée par deux petites questions subsidiaires. parce que je me méfie beaucoup de l'exaltation des lendemains qui chantent. Je me méfie beaucoup aussi de ces rêves un peu recroquevillés qui vont sentir l'entre-nous. Alors, première question subsidiaire, est-ce que nous pouvons penser ce rêve? Est-ce que nous pouvons penser cet horizon d'un monde meilleur à partir de ceux qui sont la commune, dans ma rue, dans l'association, à partir de ceux qui sont les gens de peu, à partir, dirait Sanso, à partir de ceux qui sont peut-être les plus démunis économiquement, socialement, culturellement, à partir de ceux qui ne participent pas, ne participent pas encore à l'œuvre commune? Première question, c'est clair. Deuxième question, toujours pour apprivoiser la question du rêve, pouvons-nous vouloir que d'autres communes s'emparent de nos rêves? Et c'était la très belle chute, tout à l'heure, dans le témoignage, le dernier témoignage, mais finalement, qu'on voit fleurir d'autres vipères cassées, mais c'est super. Et cette posture-là n'est pas toujours au rendez-vous. Vous pouvez avoir des personnes qui finalement fondent leur collectif, fondent leur rêve sur une clôture, et se satisfait de cette clôture. Et là, ça semble entre nous, et ça semble renfermer. Donc, ça devient important d'encadrer cette question. À ce stade-là de mon essai, vous voyez comment il va falloir mettre en tension ce pôle individuel. Et puis, pôle collectif. Pôle individuel et pôle collectif. Et réfléchir à ce pôle individuel et ce pôle collectif, c'est au fond dire comment dans l'association fabriquer à la fois du commun et du séparé. Comment penser la bonne distance vis-à-vis de toi, le professionnel, vis-à-vis de toi, mon collègue bénévole dans l'association. Comment penser la bonne distance qui permet une sociabilité sans aliénation et qui permet une solitude sans exil. Comment conjurer l'ego grandiose de sujet porteur de droit sans pour autant céder au tout social, foyer l'idéal fusionnel. Il y a là, voyez-vous, une tension qui me fait vraiment penser à l'horloge qu'il y avait chez ma grand-mère. Ces horloges-là, vous voyez qu'il y avait le tic-tac là, hein, avec le tic-tac. Eh bien, il nous faut, à mon avis, pour penser la fabrique du commun, pour penser la fabrique du vivre ensemble, il nous faut penser le tic et le tac. Le tic de la définition d'une situation où c'est le chacun, c'est toi, dans tout ce que tu as d'unique, qui est au centre, au tac d'une définition de la situation où c'est le collectif qui est au centre. Et si on reprend Vipère Café, on voit bien que adopter ça, c'est penser à la fois cette personne qui vient dans ce qu'elle a d'unique, avec son objet qui lui est sans doute cher. C'est la jeune fille qui dit, punaise, il était là au placard, mon ordinateur. Et le gars, il avait intérêt à faire gaffe là, avec son truc. Hein. Mais c'est elle, c'est son ordinateur, c'est son objet. Et à la fois, c'est important. Mais ça ne peut pas être que ça, Vipère Café. Et on va passer au tac, ou en disant, ben, on va apprendre ensemble à réparer. Et on retrouve la division du collectif. Mais ne pas non plus fusionner avec le collectif. Et donc, c'est sans arrêt ce passage du tic au tac qui nous invite, là où nous sommes dans une association, à inventer, à aménager des espaces, à aménager, à avoir une intelligence du temps qui permet, dirait François de Saint-Guy, qui me permet, qui te permet, qui nous permet d'être libres ensemble. Alors, c'est pas le monde des bisounours, entre l'individuel et le collectif, il y a de la tension et d'où l'importance d'intégrer le troisième pôle, qui est le pôle du conflit. Le conflit est inévitable. Quelqu'un dit un moment, mais voilà, c'est notre humanité qui est déposée là. Le conflit est inévitable. Les frottements, les ajustements, les incompréhensions sont là. Alors, le problème, c'est que, notamment dans une société plutôt d'héritage judéo-chrétien, le conflit est très vite le mauvais objet. Et on a du mal, en pensant le vivre ensemble, à intégrer la dimension conflictuelle. Le conflit naît lorsque ma parole, ou notre parole dans l'association, lorsque mon action ou notre action dans le collectif est freinée, stoppée, réduite au silence, remise en cause par autrui. Alors autrui, ça peut être cet autre bénévole avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Et on a eu l'exemple tout à l'heure de la nécessaire médiation mise en place. Mais ça peut être un autrui plus lointain, Ouais, eux, les élus. Ouais, eux, le syndicat. Ouais, eux, le conseil général. Hein? L'autrui peut être proche, il peut être lointain. Et ne doutons pas que le conflit peut être destructeur, mais il peut être aussi constructif. Il peut être destructeur, hein, que l'on songe à ces discours politiques où des individus dûment catégorisés sont dressés les uns contre les autres. Mais il peut être aussi, il peut disposer à l'optimisme, lorsqu'il permet à des individus qui s'ignoraient de se parler. Lorsqu'il métamorphose des hostilités un peu larvées en confrontation au grand jour. Oui, le conflit a des vertus lorsqu'il permet à un individu de ne plus s'apitoyer sur son sort, de ne plus s'enfoncer dans un rôle de victime, ou lorsqu'il permet à tout un groupe de transformer la souffrance sociale en lutte, de transformer le sentiment d'impuissance en contre-pouvoir. Et il y a quelquefois dans ces noms de collectifs, dans ces noms d'indignation, dans ces noms de résistance, une véritable force identitaire, une véritable également force dynamogène, c'est-à-dire une envie d'agir en commun. Donc, il nous faudra, je pense, intégrer toute la fécondité du conflit. Enfin, dernier pôle, il ne fait pas froid, non, tout là.
Le pôle
autorité. Le pôle autorité, c'est de comprendre que, quel que soit le faire société, quelle que soit la fabrique du vivre ensemble, elle ne peut se faire sans un rapport à la loi. Elle ne peut se faire sans contrainte. Alors la contrainte, elle a plein de visages. La contrainte, elle a le visage d'impossibilités de fait. Des impossibilités de fait matérielles, financières, des impossibilités de fait parfois économiques, oui, bien sûr. Ou alors, des impossibilités de fait, c'est le moment des quatre jeudis où, je crois qu'une personne a dit tout à l'heure, ouais, à un moment, on s'est confronté à la question du calendrier. Et le calendrier devenait comme une contrainte pour penser ces quatre jeudis. Ouais. Donc, parfois, cette autorité, elle a le visage aussi de l'intervention coercitive. L'intervention coercitive de celui, de celui qui a les réseaux, les bons réseaux, de celui qui a le capital culturel, économique. Mais il n'y a pas de fatalité. L'autorité peut aussi avoir les traits d'un art, l'art d'obtenir l'adhésion, sans recourir à la menace, sans recourir à la force, bien sûr. Et cette autorité-là, c'est une autorité qui autorise, qui permet de grandir. Cette autorité-là, alors, elle ne s'intéresse pas à la loi pour elle-même, mais elle s'intéresse à ce qui fonde la loi, ce qui lui donne sens. Elle ne s'intéresse pas à la norme, une norme de plus, mais elle s'intéresse à ce qui donne sens à cette norme. Et donc, cette autorité-là, elle est structurante, elle est sécurisante, parce qu'elle va mettre les valeurs de notre collectif, elle va mettre notre rêve, notre utopie, à l'abri de l'arbitraire, à l'abri de l'arbitraire de chacun. Et puis, elle est sécurisante parce que ceux qui sont en situation de responsabilité, eh bien, incarnent cette autorité, incarnent ces règles, les respectent. Alors, on voit bien qu'il y a, comme pour le conflit, comme pour l'individu qui est départagé entre son ego et puis se tourner vers autrui, comme un collectif qui peut être un collectif grégaire, le collectif du métro, grégaire, et puis un collectif qui est tout ouvert en disant « mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement les moustaches, c'est avec l'argent de finalement participer à, et contribuer, c'est un collectif qui semble pas renfermé, à la lutte contre le cancer. » Eh bien, le conflit a ses versants d'homme, eh bien l'autorité c'est pareil. Elle a des versants destructeurs et des versants très constructifs. Le versant destructeur, c'est à chaque fois que vous avez, dans les associations, sur des territoires, des personnes qui sont dominées par la peur, qui sont en situation de responsabilité, qui sont dominées par la peur de ne plus être rien si elles ne sont pas tout. Alors leur intervention est sans limite. Leur intervention est sans limite. Au contraire, l'autorité comme art, c'est une autorité qui est ouverte à autre chose qu'elle-même, à autre chose que ses propres particularités, à commencer par l'essai de contre-pouvoir. Elle a commencé par essayer de contre-pouvoir. Elle est consciente de ses limites, et c'est bien ça qui la protège de la tyrannie. Alors d'un côté, un versant de l'autorité autoritariste, c'est-à-dire qui produit du singulier, qui produit du monolithique, qui produit de l'indiscutable. Et puis de l'autre, une autorité qui s'ouvre au débat, qui s'ouvre à la contre-argumentation, qui s'ouvre donc au pluriel. Nous avons donc là notre quatrième larron, l'autorité. Alors, évidemment, pour arriver à essayer de lire à la suite de Pistot, de Foucault, à la suite de Barrel, pour arriver à lire ces quatre pôles-là, il faut les mettre en tension. 4, j'aime bien le chiffre de 4, 4, c'est le symbole de la totalité du créé. On dit les quatre points cardinaux. On dit les quatre éléments. C'est quoi les quatre éléments? Ouais, c'est bon. On doit avoir... Au final, on doit les avoir. Dans une vision un peu occidentale, les quatre saisons, mais très occidentale. Donc 4, c'est le symbole du vivant. Et en même temps, 4, c'est le symbole du périssable. 4, le mot 4, le mot mort en japonais, c'est le même mot. Quand ils sont venus pour les Coupes du Monde, les Japonais, vous pouvez pas aller faire loger dans une chambre d'hôtel hein, qui commence avec 4, là. C'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si 4, c'est le symbole de la mort, le symbole du périssable, ça veut dire aussi que bien souvent, dans nos associations, sur nos territoires, le vivre ensemble fonctionne avec le principe du quart exclu. C'est-à-dire qu'il y a un des quatre éléments qui va être mis à la place du mort. Un des quatre éléments est exclu. Il est là, mais il ne joue pas, il est joué. Il n'agit pas, il est agi. Parfois, c'est pire encore. C'est pas simplement un élément, mais ce sont deux éléments qui tendent à être niés. Alors là, c'est carrément pathologique. Alors, je vais passer en revue quelques pathologies. Comprenez-moi bien. Tout le travail dans les associations, me semble-t-il, quand elles pensent de vivre ensemble, c'est vraiment de tenir sur les quatre pieds cette chaise. Les quatre pieds. On a besoin de l'attention sur l'individuel et le collectif, de penser à la fois l'individuel et le collectif, mais aussi le conflit et d'intégrer l'autorité. Alors, parfois, on fonctionne sur trois pieds. C'est le principe du quart exclu. J'avais chez moi, quand j'étais gamin, nous avions des vaches à la maison. Et pour le moment de la traite, on avait un petit tabouret. C'était casse-gueule. C'était un tabouret avec trois pieds, et il ne fallait pas faire le mariole. Hein. Sinon, vous aviez vite fait de vous retrouver pour le coup des cafés. Hein. Alors, mais pire, et c'est, là ça devient pathologique pour nous, parfois, on joue que sur deux pieds. Vous voyez comment c'est casse-gueule. Quand j'étais en seconde, j'avais passé un pacte de non-agression avec mon prof d'anglais, qui m'avait mis en troisième, qui m'a dit vraiment Berger, c'est insupportable, vous ne parlez plus anglais. Je veux que vous entendre. Donc, pendant un an, elle ne m'interrogeait pas. Je disais mots, je dis des mots. Mais elle me foutait une paix royale. Elle me foutait une paix royale. Alors, pendant un an, je me suis bien demandé ce que j'allais faire et j'ai appris pendant un an à tenir sur deux pieds de ma chaise. C'est très précaire. C'est vraiment très précaire. Alors, évoquons ces précarités. Évoquons ces pathologies du vivre ensemble. Première pathologie. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a chouvé la... Première pathologie, elle surinvestit l'individuel et le conflit. Ça veut dire que les autres sont bien là, sont présents, mais sont réduits au silence. C'est le modèle, je l'ai appelé le modèle du tout libéral. Le modèle du tout libéral, il mise sur l'antagonisme entre les individus. C'est-à-dire... Il mise sur un credo de combat. Le plus fort l'emportera, le plus faible s'inclinera. Dans ce tout libéral, la gestion de nos désaccords au sein de l'association, au sein de la commune, la gestion de nos désaccords ne peut avoir d'autre issue que la rupture. L'un des protagonistes est de trop. L'un des protagonistes doit se soumettre, doit faire allégeance. Et on voit que là, le collectif, ce qu'est l'autorité aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une lutte des classes, là. On est vraiment, dirait Boubelchat, dans une lutte des places. Et évidemment, ceux qui ont la plus grande gueule l'ouvrent, là. Hein. Ils l'ouvrent ceux qui ont le... Quand je dis la plus grande gueule, c'est-à-dire qui ont le bagage, qui ont les mots pour le dire. Et là, on est vraiment dans un premier modèle pathologique, celui du tout libéral. Deuxième modèle pathologique, je vous propose... Ah, ben, formidable. Je vous propose de l'appeler le modèle du faire-front. Le modèle du faire-front... Il surinvestit le collectif et le conflit. Les autres sont là, mais mis en sourdine. Alors là, c'est simple, il faut choisir son camp. Vous êtes de quelle commune, vous, hein? Vous êtes avec qui? Il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Tu es avec nous ou tu es contre nous? La coopération dans chaque collectif est extrêmement forte. Mais c'est une coopération ad intra, une coopération recroquevillée, sur notre collectif. Ici, les individus jouent en mineur, les individus se taisent, l'heure n'est pas leur rivalité, l'autorité de toute façon ne pourra pas avoir la paix tant qu'ils ne se seront pas rentrés dedans, les collectifs, les bandes, dans le quartier. Donc on reste, hein, évitons les dégâts collatéraux, on invite les individus à rester chez eux. On est vraiment dans des rapports de force où chacun, chaque individu, est invité à réprimer les traces d'individuation, à se laisser assigner une place par le nous auquel il adhère, le nous qui lui donne donc effectivement une place, et ce nous est tout entier mobilisé par la lutte contre eux. Il y a un ennemi qui est institué. Il y a un ennemi qui est institué. Donc, frère ou ennemi, telle est l'alternative secrétée par le narcissisme de ces groupes aux abois. Le vivre ensemble ici est tragique. Il est très fusionnel, mais il est tragique au sens où il n'y a aucune autorité, l'autorité mise à la place du mort, une autorité, aucun espoir, aucune utopie, capable de faire réconcilier les adversaires, de concilier les antagonismes, les invectives, les outrages s'appellent mutuellement. On est là dans un second binôme pathologique. Troisième binôme, pour lequel j'ai une tendresse particulière, je l'appelle « Peace and Love ». En hommage à ma compagne. Alors, « Peace and Love », c'est un, voyez-vous, « Peace and Love », il surinvestit, « Peace and Love, il surinvestit l'individu et le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est vraiment un modèle sympa, hein, ce qui est important, c'est la bonne volonté de chacun. Ce qui est important, c'est un beau projet fédérateur, capable de susciter l'enthousiasme, d'emporter l'adhésion de tous. Mais alors, le mot d'ordre, c'est surtout pas de vague. Soyez sympa, pas non plus au Claude, sinon la fête sera gâchée, et si la fête est gâchée, il faudra convoquer l'autorité, c'est foutu. Alors, au contraire, l'autorité s'efface. Et l'autorité, elle vient à ces rencontres en disant, vous savez, moi je ne suis pas le chef ici. Je suis là comme vous. C'est-à-dire que dans ce modèle généreux, encore une fois, dans ce modèle civique responsable, finalement, les hiérarchies s'effacent, faisant idéalement des uns des autres des semblables. Alors on convoque des mots très forts, solidarité, partenariat, qui doivent précipiter l'avènement de jours meilleurs. Mais surtout pas vague. Surtout pas vague. Quatrième modèle, la peur du gendarme. La peur du gendarme surinvestit l'individu. On exalte les projets individuels et en même temps, on fait valoir une autorité forte. Le discours d'à peu près suivant, si on veut avoir la paix sur notre commune, il faut les élus qui en aient. Si on veut que l'association soit bien tenue, bon. Hein? Donc, il faut des chefs qui en imposent. Alors bien sûr, vive les initiatives, vive les projets individuels, à condition qu'ils respectent le cadre fixé par l'autorité. Parce que soyons clairs, s'il y en a un qui franchit la ligne continue, je te l'allume, la peur du gendarme, c'est-à-dire que tolérance zéro. Là, ici, il ne s'agit pas de jouer collectif, on joue perso, et pour l'autorité, on joue les gros bras. Le binôme, là, désigne un vivre ensemble sécuritaire, impunité zéro. Impunité zéro. Tolérance zéro. Ça va? Cinquième modèle, pathologique, il surinvestit le collectif et l'autorité. Alors là, ça donne des associations hyper réglementées. Oh punaise! C'est pas des règlements intérieurs à rallonge, là, des trucs, les établissements. On produit de la norme. On n'arrête pas tout le vivre ensemble est codifié, hyper institutionnalisé, hyper bureaucratisé. Et on n'en a jamais assez parce qu'il faut se. Voilà. Et donc, ça donne au fond des organisations un peu communautaires avec des régimes autoritaires qui supplantent les projets, les initiatives individuelles. Là, le raisonneur. Il a mauvaise réputation ici. Le raisonnable. Et ce qui l'emporte, c'est plutôt une identité de réclusion qui vit très mal l'inattendu, qui vit très mal l'altérité, qui vit très mal l'arrivée de ce nouvel habitant qui nous dérange dans nos habitudes. Ça passe très très mal. Et alors on voit face au nouveau, face à l'inattendu, on voit ce vivre ensemble se crisper, se rigidifier, voire céder aux dérives sectaires qui hantent les instincts groupaux. Dernier binôme pathologique. C'est un binôme qui surinvestit le conflit et l'autorité. Et dans ce binôme, les individus, les collectifs, donc les associations, peinent énormément à se faire entendre. Tout se passe comme si l'emporter des conflits stériles entre des partis aussi, mais les partis aussi, ici, ce sont des acteurs publics. Des acteurs publics, ça peut être des élus, ça peut être des représentants, des présidents d'associations. Et tout se passe comme si, au fond, le vivre ensemble était englué dans des revendications catégorielles, dans des rivalités irrésistibles, parfois ancestrales. Tout se passe comme si le vivre ensemble était paralysé par des acteurs publics qui se neutralisent mutuellement. Vous savez, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et on a l'impression, un peu désespérante, que le jeu social ici est à somme nulle. Le tout libéral produisait du gagnant et produisait du perdant. Tout le travail de vos associations, à travers les quatre exemples, c'est de produire du gagnant-gagnant. Eh bien, là, c'est un somme nulle. Il n'y a ni perdant ni gagnant, si ce n'est la forme, une force d'inertie qui est gagnante. Un sentiment d'impuissance, un sentiment de ne pas pouvoir agir, d'attendre la réforme suivante éventuellement. D'attendre la réforme suivante. Mais il y a là comme une paralysie de la fabrique du commun. Alors, nous avons évoqué les modèles pathologiques avec nos deux pieds là. Hein. Alors parfois, évidemment, Bistot le dit très bien, et Foucault aussi, on est sur des modèles à trois pieds. Les modèles à trois pieds, c'est par exemple des modèles qui vont valoriser l'individu, valoriser le collectif, investir l'autorité, mais mettre le conflit en position carrée, mettre le conflit à la place du mort. Exemple, je pense à ces quartiers où sévit plus qu'ailleurs une pauvreté matérielle qui nous parle de la crise économique, une pauvreté relationnelle qui nous parle de la crise du lien social, une désespérance qui nous parle de la crise du sens, dirait Bistot. Et face à ces crises qui menacent la cohésion sociale, on voit des associations, on voit des initiatives privées entrer en lutte, entrer en résistance, développer des projets. On voit les autorités leur donner les moyens de s'installer dans la durée. Et souvent, ce qui est mis à la place du mort dans ces quartiers, c'est le conflit. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais dire qu'on n'attend pas des personnes qui sont aidées, soutenues, accompagnées, qu'elles se constituent en classe laborieuse, qu'elles réclament une tribune, qu'elles réclament une parole, qu'elles revendiquent à recevoir autrement ou autre chose. Ce serait déplacé. Non, non, non. On attend de ces personnes en situation de grande pauvreté, le plus souvent, qu'elles restent à leur place. Ça veut dire que c'est particulièrement difficile d'intégrer ce quatrième pied, intégrer ici le conflit. Ce serait penser à la fois une solidarité institutionnelle, bien organisée, et en même temps favoriser l'esprit critique, favoriser le trait de conscientisation, favoriser l'esprit critique chez ceux-là même que l'on dit aider, accompagner, soutenir, favoriser l'esprit critique, y compris à l'égard de l'autorité, y compris à l'égard de l'institutionnel. Eh bien, mettre le conflit à base du mort, ça va être taire cet esprit critique. Taire cette conscience-là, qui peut être une conscience sociale, politique. Parfois, ce qui est mis à la place du mort, le cas exclu, c'est l'autorité. Ce sont ces quartiers où il y a comme un ras-le-bol. Un ras-le-bol, par exemple, de la violence. Il y a un ras-le-bol de la violence. Et on voit face à cette violence les initiatives privées, individuelles, plus collectives, associatives, vraiment, là aussi, entrer en résistance, très concrètement, en mettant sur le quartier, dans l'association, une charte de code de bonne conduite, en créant, pour les adolescents les plus délinquants, en créant des activités théâtrales, où ces jeunes vont pouvoir, par l'activité théâtre, commencer à mettre des mots sur leurs émotions, et ce faisant, à mieux les contrôler. Mais mettre l'autorité à la place du mort ici, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce beau et louable projet qui vient nous parler d'une prise de conscience individuelle par rapport à la violence, qui vient nous parler de l'émergence sur le quartier, sur la commune, d'une culture de la paix, de la non-violence. Ce beau et louable projet pacificateur risque de tourner court, risque de rester dans le déclaratif s'il n'y a pas une autorité qui soit capable, qui s'engage pour sanctionner lorsqu'il y a transgression, pour rendre les arbitrages financiers nécessaires, par exemple, à assurer la pérennité de l'activité de théâtre. on aura mis l'autorité à la place du mort. Il faut que je fasse gaffe au temps, il me reste juste 10 minutes. Alors je vais terminer par un exemple à quatre pieds. C'est un exemple qui s'est passé sur le quartier Maurepas à Rennes. Sur ce quartier, zone d'éducation prioritaire, où il y a une très grande pauvreté, une association que vous connaissez sans doute, ATD. ATD a remarqué qu'il y a un grand nombre de parents qui ne franchissent jamais le portail de l'école. Ils viennent pas. Leurs enfants sont là, mais eux ne franchissent jamais le portail de l'école. Alors, cette association décide, c'est pas le café Ripper, Ripper Café, j'ai du mal avec l'anglais quand même. Ils décident de mettre en place un café des parents. Un café des parents. Mais ce café des parents est en dehors de l'école. Et là, ces parents, au passé passif scolaire, vont investir ce café qui est d'abord un lieu de convivialité. Et vous avez souligné l'importance de l'accueil dans vos quatre exemples, l'importance de l'accueil. Eh bien, ces parents ici se sentent accueillis. Et puis tout doucement, ils commencent à se coltiner des questions. Et comme dit une mère, c'est enregistré ce qu'on dit. Ça veut dire que c'est important et que ça compte. Et c'est quoi ces questions? Eh bien, c'est de dire, de partager avec autrui quel élève avons-nous été. C'est de partager des questions comme comment est-ce qu'on peut, quel rêve on a pour l'école de nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Bref, avec ces hommes et ces femmes qui ont souvent une grande pauvreté dans les bagages académiques en termes de diplômes, voilà tout doucement une pensée sur l'école qui s'élabore, avec leur univers engagé à eux. Et puis de leur côté, il y a un petit collectif d'enseignants, des enseignants volontaires, une douzaine, qui décident de réfléchir à comment permettre de mieux faire connaître à ses parents ce que vivent leur progéniture, leurs adolescents, leurs jeunes enfants, dans l'école. Et une fois par an, pas plus, ces collectifs, la CATD, se rencontrent autour d'une question commune. La question commune, par exemple, ça va être comment aider un jeune à reprendre confiance en lui. L'autorité va arriver sur le projet. L'autorité, elle arrive, c'est ici l'inspection de l'académie. Je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est la ville de Rennes, la caisse des écoles, qui dit, mais il faut investir dans cette affaire-là. C'est encore le réseau d'aide, d'écoute, d'accompagnement des parents. Il y a là tout un cadre qui se met en place, qui installe dans la durée, qui nous a dit à un moment, oui, je crois que c'est les 4 jeudis. 4 jeudis, en fait, une des questions, un des bémols, avez-vous dit, c'est comment résister à l'érosion du temps. Là, il y a des éléments pour résister à l'érosion du temps à travers cet investissement. Et ce qui est très beau, c'est que tout doucement, il va y avoir des fruits à ces rencontres. Et des fruits qui commencent par le conflit. D'abord, ce sont ses parents qui disent, vous voyez qu'on n'est pas sans voix, mais arrêtez de nous convoquer. Ils revendiquent et ils obtiennent de ne plus être uniquement convoqués individuellement à l'école. Parce que pour le moment, ils étaient convoqués. Et ils savaient qu'ils allaient en prendre une, parce que leur fils, c'était pas forcément au rendez-vous académique. Eh bien, arrêtez. Et ils vont tenir de dire, nous avons des choses à vous dire, mais nous avons des choses à vous exprimer collectivement. Nous aimerions avoir des temps collectifs pour vous dire des choses. Et puis, sur le langage, ils vont aussi pouvoir oser dire aux enseignants, il y a des mots, on ne comprend pas quand vous parlez. Et l'exemple très concret, c'est par exemple le mot cursus. Là, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi cursus? Et donc, tout doucement, on commence à apprendre le plaisir de parler la même langue, de trouver les mots pour le dire. Et on voit également des parents, encore une fois au passé passif scolaire, très éloignés de l'école, réaliser que finalement, ils ont des choses à apprendre aux gens qui savent, à ces enseignants. Par exemple, des choses à apprendre sur leur réalité, sur le quotidien, pourquoi leur enfant décroche, pourquoi l'enfant fait le collège buissonnier. Ils ont des choses à apprendre à ces gens qui savent. Et là, à partir de là, cette fierté-là lève un malentendu. Et ils s'autorisent à critiquer l'autorité en disant, au fond, vous les élus, vous les enseignants, vous voulez absolument nous aider, alors que nous, on veut être utile. Et à partir de cette posture-là, il y a tout un revirement qui commence à se faire. Et dans cette adhésion du collectif, ça n'interdit pas des initiatives hautement individuelles. Pensez le tic et le tac de la grand-mère. C'est-à-dire, je pense à cette mère qui ne franchissait pas le mur de l'école, mais qui maintenant, elle a pris confiance en elle, elle a fréquenté ce café des parents. Et puis, un beau jour, sa petite fille, qui est en CP, vient lui rapporter les humiliations vécues par une de ses camarades à l'école. Elle est indignée, et bien elle va prendre sur elle. Elle ne mobilise pas le collectif. Elle ne fusionne pas le collectif. Elle va prendre sur elle de franchir le portail de l'école et d'aller dénoncer à la directrice des pratiques qui lui semblent d'un autre âge, qui lui semblent indignes. Pour terminer, vous voyez comment, à travers cet exemple, l'action collective confrontante, où on a osé, entre enseignants et parents, on a pris le risque de la confrontation, n'interdit pas en même temps de construire de la cohésion, de construire de la convivialité. Où on peut à la fois, comme cette mère, adhérer à un collectif, ici le collectif des parents, sans pour autant renoncer à des initiatives individuelles. Où l'autorité, ici, a permis de mettre en cadre un cadre qui permet à des hommes et des femmes de se remettre debout, de retrouver une dignité, mais tout en les autorisant à se montrer critiques, y compris à l'égard de l'autorité ici académique, de l'autorité politique. Bref, penser le vivre ensemble dans nos associations nous invite, me semble-t-il, à gérer le paradoxe, c'est-à-dire oser plus de confrontations entre nous et sans que cela soit incompatible, bien au contraire, cultiver le café, cultiver le goût, l'accueil, du vivre ensemble. Il nous faut à la fois encourager les initiatives individuelles et motiver à plus de coopération entre nous. Il nous faut à la fois affermir l'autorité et renforcer les contre-pouvoirs. Je vous remercie.